Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. À toutes celles et ceux qui, persécutés comme juifs en France, ont réussi à échapper au destin funeste de la déportation. À tous ces Français inconnus qui affirment n'avoir fait que leur devoir pour aider et protéger leurs prochains persécutés. C'est la dédicace du livre de Jacques Semelin que nous recevons aujourd'hui. Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po, qui a dirigé l'encyclopédie online des violences de masse et qui a théorisé la notion de résistance civile. Vous êtes là aujourd'hui pour votre nouvel ouvrage « Persécution et entraide dans la France occupée. Comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort » qui vient de paraître aux éditions des Arènes le seul. C'est effectivement une énigme française quand on compare ces chiffres avec ceux d'autres pays européens. En Belgique, on ne compte que 55% de survivants et aux Pays-Bas seulement 20%. Avec cette somme de plus de 800 pages, vous vous êtes plongé, Jacques Semelin, dans les années d'occupation afin de comprendre, à travers notamment de nombreux témoignages, ce qui a permis dans la société française l'émergence d'une résistance civile. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous appelez résistance civile?
D'abord, je vous remercie pour votre invitation et je suis très heureux d'être dans cette émission Mémoire vive. La résistance civile, c'est une notion que j'ai développée depuis des années, mais pour la première fois, je l'ai appliquée à la France. Voilà. Et dans notre pays, la résistance, c'est De Gaulle, les maquis, les communistes. D'accord, c'est donc une résistance patriotique ou internationale, mais il y a eu aussi une autre résistance qui s'est développée en France, et surtout à partir de l'été 1942, dans le cadre des rafles de la zone nord et aussi de la zone sud. C'est une résistance qui consistait à sauver des vies, et c'est ce que j'ai appelé la résistance civile.
Alors cette notion de résistance inclut donc les actions individuelles et collectives des Juifs eux-mêmes?
Alors, elle inclut surtout, j'ai resserré ma notion par rapport à ceux qui connaissent mes anciens travaux, notamment dans Sans armes face à Hitler, je l'ai resserré pour définir précisément le rôle des organisations. Précisément, le titre du chapitre, ça s'appelle « De l'entraide spontanée à la résistance civile ». Donc, on parle d'une résistance organisée qui est d'abord le fait de juifs, d'organisations juives. Ça, c'est un point absolument central. Je pense, bien sûr, à l'œuvre de secours aux enfants, au comité de la rue Amelot. On pourrait aussi parler des éclaireurs israélites. À ce moment-là, à l'été 42, il y a une sorte de basculement. Et vu les risques qui pèsent sur les Juifs, alors on commence à s'organiser clandestinement, à faire des faux papiers, etc. Donc voilà, ça c'est cette résistance civile que je décris de la part d'acteurs juifs, mais comme vous le savez aussi, il y a des acteurs non-juifs, chrétiens et laïcs, et avec le temps, ils finissent par se connaître. Il y a ce que j'appellerais des réseaux interdépendants.
Et puis surtout, au fur et à mesure de la guerre, dans les premiers temps, jusqu'en 42, peut-être avant 41, accueillir un enfant juif n'était pas un acte de résistance, c'était un acte d'accueil. Et puis c'est ensuite, quand les lois se durcissent, que les gens vont basculer comme ça dans la résistance.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, comme vous savez, le travail qui s'est fait dans les camps d'internement du sud de la France notamment, pourrait être considéré comme un travail humanitaire, essayer de faire sortir le maximum d'enfants. Et en même temps, on sait que ces parents et ces enfants sont devenus des cibles potentielles d'arrestation à l'été 1942. Et on est passé, comme dit l'abbé Glasberg, qui a travaillé justement dans ces réseaux, on est passé à ce moment-là de l'assistance à la résistance. Et donc, dans ce chapitre qui est assez volumineux comme le livre, j'ai essayé de rassembler toutes les histoires, voyez, pas seulement la résistance qu'on raconte dans des livres qui concernent la résistance juive, mais aussi chrétienne, mais aussi laïque. Je suis l'itinéraire de Joseph Minck, qui était communiste, le papa d'Alain Minck, et qui fait partie du mouvement national contre le racisme, et qui lui aussi, à Paris, s'implique dans le sauvetage. Donc voilà, j'essaye de faire une histoire très interactive, on va dire, pour montrer les moments les plus les moments clés de cette résistance civile en France qui a permis de sauver plusieurs milliers d'enfants en particulier.
Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur les différentes formes d'action qu'elle a pu avoir ? C'est-à-dire, il y a le sauvetage, il y a le passage en Suisse également. Enfin, tout ça, ça fait partie de...
Ben, ça s'organise un petit peu en réseau. Pour moi, la résistance civile, si vous voulez, c'est la logique de l'extraction de personnes en danger, de milieux où elles sont potentiellement arrêtables, c'est-à-dire les camps d'internement, par exemple les quartiers pauvres de Paris, etc. Donc la résistance civile, c'est une extraction, c'est un transfert. Alors ça suppose des convoyeuses, que vous connaissez, vers des milieux non-juifs. Donc on va les disperser dans ces milieux non-juifs de telle sorte qu'ils deviennent plus ou moins invisibles. Plus ou moins invisibles. Hein. Donc, pour reprendre une expression de Simone Veil. Donc ça, tout ça, ça demande de l'organisation. Et la résistance civile, on la voit souvent comme passive, vous voyez ?
Oui, oui, ça commence
aussi. Non, là je réagis très fortement. Il en faut de l'énergie pour s'occuper de ses enfants. Il en faut du courage pour faire des faux papiers. Il en faut aussi de l'audace pour faire partir ceux qui sont peut-être les plus reconnaissables, comme disait Georges Garrel, vers la Suisse. Donc pour moi, c'est pas du tout une résistance. Elle n'est pas à opposer à la résistance armée. Elle est complémentaire à la résistance armée et elle est très active dans le contexte de l'époque.
Alors il y a également un chapitre très intéressant dans votre livre, c'est les différentes attitudes que vont avoir les Juifs à l'arrivée des Allemands. C'est-à-dire assez tôt, dès 1940, on voit plusieurs attitudes assez opposées face à ce danger potentiel. Certains prennent conscience très vite de ce qui se passe et d'autres, pas du tout.
D'autres beaucoup moins. Et c'est là où j'ai voulu j'espère, preuve un peu d'originalité, en essayant de suivre des parcours d'individus et de familles. Il faut que vos éditeurs vraiment aient dans l'esprit que je suis pendant la guerre un certain nombre de témoins dont je vais raconter les histoires. Et c'est vrai que mon livre porte 75% de juifs non déportés, mais bien sûr, ces familles vont avoir des êtres qui vont disparaître. Donc ce n'est pas du tout une histoire rose du sauvetage des juifs de France que je raconte. La mort et la persécution sont présents jusqu'à la fin du livre. Mais en racontant ces histoires, eh bien, je décris, on va dire leur micro-tactique de contournement de la persécution. Voilà. Alors les petits boulots, au moment du statut d'octobre 40 de l'exclusion, ben voilà, bon, ils vont se reconvertir, les profs, ils vont faire des cours privés, il y a des plans B, hein, etc. Ils vont aussi aller beaucoup en zone libre. Là, c'est tout le phénomène de la dispersion qui est bien connu, mais j'essaie de montrer toutes les fils de cette dispersion. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup été influencé par la lecture de Stefan Zweig à l'époque. Enfin, je pourrais vous expliquer, mais ça serait trop long. Et certains vont se retrouver dans l'agriculture, parce que l'agriculture n'est pas interdite par Vichy, aux Juifs. Donc voilà, j'essaie de montrer tout cela. Et je dois dire qu'en faisant ce travail, alors que je suis quand même spécialiste de la période, j'ai fait une découverte. Voilà. Alors, j'ai fait une découverte, c'est-à-dire je ne savais pas que 90% des Juifs français, ce qu'on appelait des Français israélites à l'époque, ont survécu à la Shoah. Et j'ai refait mes calculs à partir des chiffres de Serge Klarsfeld, je l'ai trouvé chez une spécialiste aussi. Et en réalité, l'explication... elle est assez compréhensible, c'est-à-dire que ces Français israélites, ils sont quand même relativement bien intégrés dans la société française depuis un siècle. Donc, ils souffrent énormément de l'ostracisme que déclenche Vichy contre eux. On sait les magnifiques lettres de Marc Bloch, de Pierre Masse, etc. Mais en même temps, ils ont quand même quelques moyens pour se retourner parce qu'ils ont des amis, ils ont des collègues, ils ont de la famille en province, etc. Donc, ils ont ce qu'on appelle dans notre langage des réseaux de sociabilité. Les Juifs étrangers, ils ne parlent pas bien français, ils ne connaissent pas grand monde, ils ne savent pas où aller en province, dans la zone libre. Donc ce critère de la nationalité, et ce n'est pas le seul, est vraiment discriminant pour comprendre l'évolution des destins, en fait, des individus.
À l'inverse, certains des plus intégrés vont peut-être aussi ne pas voir le danger. Justement, ayant été anciens combattants de la Première Guerre mondiale, s'imaginent être...
Absolument, absolument. Il y a l'illusion...
Mais je pense qu'il n'y a pas de risque pour eux, en fait.
Oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et les malheureux, ils n'ont pas vu le...
Et qui vont rester dans leur appartement.
Voilà. C'est ce que raconte, par exemple, Denise Veil, l'un de mes témoins, à propos de son grand-père, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous voulez, toute la logique de cette enquête, qui m'a pris plusieurs années, hein, c'est de suivre les individus au ras des pâquerettes. Vous voyez, c'est l'art de la débrouillardise. Et je suis complètement, vous voyez, pris encore par cette histoire. J'ai été, si le livre est volumineux, c'est que j'ai été porté et transporté par ces histoires de témoins qui m'ont beaucoup ému. Et j'essaye d'être le plus fidèle possible pour raconter leur vie dans cette période à travers, bien sûr, leurs souvenirs.
Il y a également ce que on appelle les synthétisés.
Oui. Ben oui, c'est pas un terme, on l'a un peu oublié, mais ça veut dire que ce sont des juifs, qui se sont légaux, hein, qui ont acquis des faux papiers et qui semblent tout à fait dans la légalité. Et cela, bon, tout le monde n'est, on va pas dire que tous les juifs sont des héros, quand même. C'est-à-dire que certains sont lucides de ce qui leur arrive, mais d'autres ne le comprennent pas. Et jusqu'au dernier moment, ils vont croire qu'en restant dans la légalité, ça va les protéger, ça va les sauver. Alors les malheureux, ils se trompent, mais comment juger ? Moi, je ne peux pas, en tant qu'historien, juger de ces attitudes-là. C'est vrai que ceux qui sont intégrés à la société française sont peut-être le plus dans cette situation-là. Et ce que j'essaye de comprendre, en particulier... Je voudrais le signaler à vos auditeurs, j'ai essayé de faire une analyse fine du journal d'Ellenberg, parce que c'est absolument émouvant, ce qu'elle raconte dans les semaines et les mois qui ont précédé son arrestation. Elle est complètement lucide sur la situation, d'autant que son papa a été à Drancy. Mais en même temps, ils ne veulent pas aller en zone libre. Alors, voilà, comment juger ? Donc, vous savez, avant d'être historien, j'ai été psychologue. Ça aide pour comprendre ça, mais jamais dans le jugement. Donc ça, c'est alors tout ça. Il y a des pages et des pages sur tout ça. C'est-à-dire ce que j'appellerais le répertoire de la débrouillardise et de l'esquive de la persécution, voire de l'arrestation. Et vous êtes nous sommes dans une émission qui s'appelle Mémoire vive. J'ai pris conscience maintenant que je commence à parler de ce livre. Vous savez, il se détache de moi, que mon livre porte sur les mémoires de la non-déportation. C'est ce que m'a dit Serge Klarsfeld, d'ailleurs, dans le débat que nous avons fait à Sciences Po. Il y avait les mémoires de la déportation, mais là, on a tout un répertoire des attitudes que les persécutés ont pu avoir par rapport au fait de contourner la persécution et de vivre tant bien que mal. Et bien sûr, après, c'est encore plus grave aux arrestations de l'été. Et là, bon, là, je ne sais pas si on a encore le temps, mais il faudrait parler des réactions d'entraide dans la société. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas pu faire ça tout seul.
On va y revenir, mais c'est ce que vous disiez. Effectivement, on se demande, est-ce qu'il fallait attendre 2013 pour écrire ce livre ? C'est-à-dire qu'on arrive à entendre justement ces témoignages de ceux qui ont survécu sans être déportés. C'est-à-dire finalement des témoignages qui pour certains, enfin pour ceux qui avaient vécu cette histoire, étaient... pas assez important par rapport à ceux qui avaient connu les camps, c'est
écoutez,
ça
écoutez, je me le reproche moi-même, je dis, mais pourquoi t'as pas eu cette idée plus tôt, bon sang de bonsoir, ouais.
Bon. Parce que ça concerne la majorité.
Mais bien sûr. Alors, vous savez, j'ai fait des entretiens avec des témoins juifs non déportés. Et plusieurs fois, ils m'ont dit, mais M. Semelin, on connaît un petit peu, mais on n'a pas grand-chose à vous dire.
Oui, voilà, c'est ça.
On n'a pas grand-chose à vous dire. Non, mais attendez... Ça veut dire on n'a pas grand-chose à vous dire par rapport à ceux qui ont été déportés. Et ça, j'ai fini... Alors, ma petite... Enfin, c'est de la jugeote, mais bon, ma petite formation de psy m'a aidé aussi à ça. Alors, j'ai dit, mais attendez, comme on dit en anglais, wait a minute. Et vous pouvez me raconter votre vie pendant la guerre ? Et puis, alors, pouf ! À ce moment-là, tout s'en va, tout. Et puis, je peux vous dire, les larmes viennent... voilà, et puis... Et ces larmes, cette émotion, on va dire, parce que c'est pas tout le temps des larmes, faut pas non plus j'exagère, cette émotion, elle est autant par rapport à la persécution qu'ils ont vécue, mais aussi par rapport à des petits gestes d'entraide qui les ont marqués, ça paraît rien pour eux, pour nous, pardon, mais pour eux, ils ne les ont jamais oubliés. Et là, l'émotion, elle vient. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est je ne sais pas vous expliquer pourquoi j'ai fait ce livre depuis 2008. Vous savez, c'est Simone Veil qui m'a poussé un moment à faire ça, mais ça m'a complètement pris en termes de tentative de compréhension de ce qu'ils ont vécu en essayant de ne pas trahir leur souvenir.
Alors il y a cet autre aspect que vous évoquiez, c'est-à-dire la résistance civile du côté non-juif.
Oui.
Vous montrez très bien dans votre livre à quel point la France est multiple. L'engagement va être très différent selon les classes sociales, ça c'est frappant, la situation géographique, si on est d'un côté ou de l'autre de la ligne de démarcation. Et puis il y a aussi une énorme différence entre le monde rural et les villes.
Oui, il y a tout ça. Ce que je voudrais dire par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, on a une vision très noire du régime de Vichy qui s'étend au comportement de la population française.
Aujourd'hui, depuis un certain nombre de décennies.
Oui, on va dire depuis les travaux de Paxton, en particulier, ou la manière dont on a utilisé les travaux de Paxton. J'ai le sentiment que mon enquête et mes analyses apportent de la nuance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, il y a de l'antisémitisme dans ce pays. Oui, il y a de l'indifférence envers la persécution des Juifs dans les années 1940-42. René Poznanski, par exemple, ma collègue, parlait du silence par rapport à la persécution. Mais dans les années 42-1944... alors qu'il y a aussi toujours ces éléments d'antisémitisme, etc., eh bien, ça change, ça évolue. Et là, tous les historiens sont vraiment d'accord là-dessus. C'est-à-dire que l'été 42, c'est un tournant du fait des rafles, ça provoque de l'émotion dans l'opinion, en particulier parce qu'on arrête des femmes et des enfants. Et il y a un autre silence qui apparaît, ce n'est pas le silence de l'indifférence, c'est le silence de la non-dénonciation. Mmh. Combien de fois j'ai entendu dans mes entretiens, ils savaient qu'on était juifs, mais ils n'ont rien dit.
Ouais.
Voilà. Alors, des gens qui pourraient être qualifiés d'antisémites vont avoir une attitude d'entraide. Je cite, alors c'est pas le prêtre que je cite, c'est la témoin juive, Marthe Hoffnung, qui passe la ligne de démarcation dans la Vienne, me semble-t-il, avec ses enfants, et c'est un prêtre catholique qui l'aide. Le prêtre catholique, il commence par lui dire, vous savez, je n'ai aucune confiance envers les juifs, mais je vais vous aider. Et ça, c'est un tournant. Parce que, et elle dit après, il a vu le détail dans lequel j'étais. Et moi, je, dans mon langage sciences sociales, etc., je dis la compassion l'emporte sur la stigmatisation. Mmh. Donc, attention, je ne vais pas dire que tous les Français étaient résistants. Je ne parle pas de résistance, en fait. Je parle d'entraide. C'est le mot clé qui est dans le titre. Entraide, ça veut dire des petits gestes. Ça veut dire l'instituteur qui voit arriver un gamin, un de ses élèves, dans le nord de la France, en juin 42, avec son étoile, et qui lui dit « Mon petit gars, dis à tes parents de foutre le camp en zone libre le plus vite possible. » Ils vont partir. Heureusement, ils ont suivi la parole de l'instituteur. Ça compte à l'époque. Ils vont se retrouver en zone libre, dans le sud-ouest. Ils vont se retrouver dans une famille d'agriculteurs qui va d'ailleurs avoir le titre de juste. C'est comme ça que je connais l'histoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cet instituteur qui a parlé 30 secondes ou une minute à ce gamin, il a joué un rôle ? Voilà, c'est ça que j'appelle les petits gestes. Et donc, dans cette période de 42-44, on voit, à travers mes témoignages, mais à travers aussi des réactions aussi qui sont plus ou moins consignées dans les rapports de Vichy, une sorte d'entraide vis-à-vis des persécutés. Pas seulement vis-à-vis des persécutés, parce que vous savez, il y a les réfractaires au service du travail obligatoire qui arrivent aussi en mars 43. C'est toute une population qui, complètement occupée, par les Allemands, sauf la zone italienne à un certain moment, va faire des choses pour aider ceux qui sont plus malheureux. Mais attention, ne croyez pas que je propose une vision rose de tout ça. Il y a aussi une entraide intéressée. Évidemment.
Voilà, oui. Attention, ça nous amène à cette question. Comment, justement, cette résistance civile, elle a été financée ? Les familles qui accueillaient des enfants juifs étaient rémunérées, en tout cas...
Oui.
Comment on peut dire, c'est-à-dire la nourriture pour l'enfant, etc.
Oui.
C'était.
Alors, quand le financement, déjà par les personnes eux-mêmes. Depuis le début de la guerre, je suis des familles qui ont un petit une cagnotte, comme on dirait.
Un pécule.
Un pécule. Mmh. Et cette pécule, il va s'amenuiser de plus en plus pendant la guerre. Donc, ils vont vivre avec ça. malheureusement, à la fin, il y en a de moins en moins. Bon, par exemple, c'est l'histoire des Becker, Anne Criégel et Jean-Jacques Becker, comme ça, ils arrivent à Grenoble, ils ont vraiment plus grand-chose. Bon, mais là, vous voyez, quand même, il y a une différence qui se joue. Je parlais de la différence de la nationalité, mais il y a la différence de l'argent. Hein. Ceux qui conservent, qui gardent de l'argent, qui ont plus d'argent au début de la guerre, ont plus de chances de s'en sortir parce qu'ils peuvent se payer des pensions de famille, des hôtels, etc.
Et puis des passeurs.
Donc voilà. Donc là, il y a une section qui s'appelle inégalité des conditions face à la persécution. Alors après, pour la résistance organisée, si on vient sur ce plan-là, là, les études sont connues. Je n'apporte pas grand neuf. Pour la résistance juive, c'est surtout le joint.
Oui,
c'est surtout le joint. Alors, ça n'a pas souvent été mentionné, Lucien Lazare l'a mentionné dans ses travaux, le rôle des Quakers quand même au début.
Mm-hmm.
Le rôle des Quakers, ici à Paris, ils aident le comité Amelot, ils transfèrent de l'argent de la zone libre à la zone occupée parce que les Allemands ont une bonne image d'eux, ils ont aidé leurs prisonniers pendant la Première Guerre mondiale, etc. Et puis ensuite, y a une aide qui a pu venir aussi de particuliers. Alors, si on va un petit peu plus loin, mais là, on ne va pas être nécessairement dans la... Enfin, si, on va être dans les prolongements de la résistance civile, il y a des enfants qui vont être confiés à l'assistance publique. Et ça, on n'en parle pas trop. Vous avez deux cas très connus, Boris Cyrulnik, qui est très connu, mais je raconte aussi son histoire, il m'a donné son témoignage, c'est le journaliste Yvan Levaille, qu'on entend toujours sur France Inter, ce sont deux enfants de l'assistance publique. Donc on voit dans cette période des enfants dont on ne sait pas bien l'origine d'ailleurs, pas toujours l'origine, aller dans les structures de l'assistance publique, alors qui n'est pas bien riche, hein, mais qui va prendre en charge ces enfants, et ça ce sont les structures de l'avant-guerre.
Bien sûr.
Et vous avez, je permets de le citer, Yvon Manoka qui a écrit un livre magnifique sur sa famille et il reconstitue les lieux de placement dans la région parisienne des enfants d'origine juive par le comité Aglo, Notre-Dame de Sion, etc. Ça coïncide avec les lieux de placement de l'assistance publique de l'entre-deux-guerres.
D'accord.
Donc argent extérieur, mais aussi il faut penser aussi aux structures de l'État
qui étaient
préexistantes.
Pour finir rapidement, est-ce que c'est une spécificité française que ce sauvetage ? Il y avait moins de résistance civile dans les autres pays ? Qui expliquerait ces 75%?
Alors là, on a dans l'émission qui dure 23 minutes, on ne peut pas regarder tous les facteurs. Donc j'invite les auditeurs, bien sûr,
à lire le livre.
Et parce que moi, je ne suis pas l'homme d'une explication. Il y a une multiplicité de facteurs. Donc je pense que cette résistance civile, elle a une réelle vitalité en France. D'autant que les organisations juives, ça je l'ai lu sous la plume de Lucien Lazare, sont très nombreuses en France par rapport aux autres pays.
C'est-à-dire en Allemagne, elles avaient été interdites depuis 1933,
donc certainement
les réseaux devaient être plus...
Et les études sur le joint montrent que beaucoup d'argent, enfin l'essentiel de l'argent, je crois en 1943-1944, va vers la France.
D'accord.
Mais parce qu'il y a de la réactivité, si j'ose dire, vous voyez. Donc cette dimension de la résistance civile, elle est importante, mais il y a d'autres facteurs, on ne peut pas les évoquer tous dans notre émission. Mais ce que je veux dire surtout à vos éditeurs, c'est que, en fait, ce livre, il propose une fresque, on va dire, de la persécution et de l'entraide entre 1940 et 1940, dans laquelle je raconte des histoires de survie, mais aussi de vie, parce que, vous savez, les gens... malgré tout, malgré la guerre, malgré la persécution, ils tentent de continuer à vivre. Les enfants vont à l'école, le culte, on continue à le pratiquer, comme vous le savez. Donc, je raconte tout ça, mais sans jamais oublier les morts de la Shoah.
Je vous remercie beaucoup, Jacques Semelin. Je rappelle donc que votre livre « Persécution et entraide dans la France occupée, comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort » vient de paraître aux éditions du Seuil Les Arènes. Et pour ceux qui auront l'occasion d'être à Cluny, en Bourgogne, le 28 juin prochain, vous pourrez assister à un débat entre Jacques Semelin et Robert Paxton. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.